Élie Cohen, économiste, directeur de recherche au CNRS, est notre invité ce matin. Dans la revue de presse, Frédéric Pommier évoquait les mots qui ont marqué l'année 2017, l'intelligence artificielle. Ça va changer le fonctionnement de nos économies dans les prochaines années, Élie Cohen ?
Oui, ça va beaucoup, beaucoup changer de choses parce que la combinaison de l'intelligence artificielle, de la robotique, c'est en train de transformer fondamentalement les processus de travail. Je vais vous donner juste un exemple. On parlait de l'Inde tout à l'heure. L'Inde a développé une formidable industrie de services informatiques. Ce sont des centaines de milliers de gens qui travaillent dans les services informatiques. Demain, avec l'intelligence artificielle, on va disposer de techniques qui vont permettre de produire du programme automatiquement, de corriger du programme automatiquement, de revoir tout le processus de création de programmes informatiques. Vous imaginez, ce sont du jour au lendemain des armées de contrôleurs, des armées de correcteurs de bugs, des armées de gens qui fiabilisent des lignes de logiciels qui vont se trouver sans activité. J'ai donné cet exemple parce que c'est théoriquement une activité qui est une activité qui relève de la nouvelle économie, c'est tout ce qui est informatique et numérique. C'est normalement une activité qui, sur laquelle l'Inde a misé pour se développer. Eh bien, c'est une activité qui va être directement impactée par les développements de l'intelligence artificielle.
Au standard, Thierry nous appelle. Bonjour Thierry.
Bonjour messieurs. Oui, moi je voulais juste témoigner par rapport au chômage, au contrôle de ce que l'on fait quand on est au chômage. Voilà, j'ai 59 ans, je vais essayer d'être très concis. J'ai été licencié il y a 2 ans, j'ai fait une formation dans le cadre de mon reclassement sur un master informatique que j'ai eu avec mention. J'envoie à peu près 5 CV par jour. J'ai eu sur 150 CV 5 réponses négatives, 2 entretiens négatifs bien sûr. J'ai une expérience extrêmement importante dans le commerce, dans la logistique, dans l'informatique également. Et je partage tout à fait l'avis de Monsieur Cohen sur l'intelligence artificielle. Quid des seniors, des vrais seniors, dans ce développement économique? J'ai participé à ce développement pendant 35 ans. Et là, je suis bon à jeter à la poubelle. Donc je me pose plein de questions. Je pense créer mon entreprise. J'ai besoin d'une formation pour ça, donc une certification sur l'audit qui vaut 10 000 euros, et on me dit que Pôle emploi ne peut financer que des formations maximum 4 000 euros. Donc qu'est-ce que je fais? Voilà.
Élie Cohen, ce témoignage?
Ce témoignage nous invite à véritablement revoir le système qu'on a mis en place, parce que théoriquement, tout ce qui vient d'être dit témoigne, 1, d'une volonté de mise à jour des connaissances, 2, d'une volonté de réinsertion sur le marché du travail, 3, d'une détermination à exercer un emploi et à sortir de la condition de chômeur, et malgré tout, ça ne marche pas. Ça veut dire que les dispositifs d'encadrement, d'accompagnement des travailleurs vers le retour à l'emploi ne sont pas satisfaisants. Ça mentionne en particulier un élément qui est l'inadéquation de la dépense de formation que nous avons aujourd'hui aux besoins véritablement exprimés, alors même qu'il y a des volontés de requalification et de réinsertion sur le marché du travail. Cet exemple-là, malheureusement dramatique, montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans Pôle emploi.
Frédéric Mettezeau.
Oui, Élie Cohen, pendant la campagne, le candidat Macron avait promis l'indemnisation chômage pour les salariés démissionnaires. Il semble que les critères qui seront fixés en 2018 seront assez restreints, assez stricts. Alors, c'est une bonne mesure, mais trop limitée? C'est une mauvaise mesure, ou au contraire, ça vous semble bien dosé?
Si vous voulez, c'est toujours le même problème. Ça part d'un diagnostic qui est un diagnostic absolument juste. Nous allons connaître de plus en plus dans les années qui viennent des transformations des qualifications, une nécessaire mobilité d'un emploi à l'autre, et également un effacement des statuts tels que nous les avions connus par le passé. On passera plus facilement d'un statut de salarié à un statut d'auto-entrepreneur, etc. Et la question qui se pose, c'est: est-ce que l'indemnisation du chômage telle que nous la connaissons est adaptée à ce monde où on va beaucoup changer d'emploi, beaucoup changer de statut? La réponse est non. Donc ce qu'a tenté de faire Emmanuel Macron pendant sa campagne électorale, c'est de dire qu'il fallait abolir certaines frontières et qu'il fallait permettre à des auto-entrepreneurs qui changeaient de projet professionnel ou à des salariés qui voulaient changer de projet professionnel d'avoir une couverture, une indemnisation du chômage. D'où la réponse qu'il a voulu mettre en place, qui est une universalisation de la couverture du chômage et une sortie du statut assurantiel classique.
Et donc, alors, bonne réponse,
la réponse est bonne. Simplement, on fait face en même temps à une dette des régimes d'indemnisation du chômage qui est importante et un déficit maintenu. Comment on fait la jointure? C'est toute la question.
Gilles à Lyon est en ligne avec nous. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour France Inter. Donc moi je suis très énervé ce matin parce que on parle d'indemniser les chômeurs, ce qui est tout à fait normal. Par contre, si on crée des nouveaux chômeurs pour des causes qui sont pas toujours justes, alors je vous donne un exemple très simple. Il y a un nombre très important de grandes sociétés, pour des raisons non pas financières, mais pour des raisons de bourse, qui licencient des salariés. L'État n'intervient pratiquement jamais. Évidemment, il y a des personnes qui étaient qualifiées et qui se retrouvent du jour au lendemain d'être au chômage. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des mesures réelles qui pourraient être prises en compte pour éviter ce genre de choses? Parce que ça se répète pendant toute l'année. Si on regarde en fin d'année, c'est des centaines de milliers de chômeurs supplémentaires qui sont créés sans qu'on puisse faire réellement quelque chose.
Élie Cohen.
Il y a jusqu'à présent deux types de mesures qui ont été prises. Les premières, c'est lorsque des entreprises ont bénéficié d'aides publiques à quelque titre que ce soit et qu'ils se mettent à licencier pour des raisons effectivement d'optimisation de leurs résultats ou d'amélioration de leurs résultats financiers et qu'ils ferment des sites ou qu'ils délocalisent, eh bien l'État s'est donné les moyens d'exiger le remboursement des aides qu'ils ont reçues. Ça, c'est un premier type de dispositif. Et il y a un deuxième type de dispositif qu'on est en train d'envisager actuellement, c'est de faire en sorte que les entreprises qui recrutent beaucoup sur des contrats courts et qui donc organisent un turnover très rapide de leur personnel, d'introduire un système de bonus-malus dans leur cotisation chômage pour qu'ils supportent le coût de leur politique sociale particulièrement mal inspirée, puisque, en gros, ils reportent sur la collectivité l'indemnisation du chômage qu'ils produisent.
Élie Cohen, l'hebdomadaire britannique The Economist, ardent défenseur du libéralisme économique, a désigné la France pays de l'année 2017 pour l'élection d'Emmanuel Macron, estimant que le nouveau président, je cite, a balayé l'ancien régime, l'image de la France qui semblait irréformable, en a été transformée. Voilà ce qu'écrit The Economist. Vous partagez cet enthousiasme?
Écoutez, j'ai lu cet article et il faut le lire. C'est écrit avec beaucoup d'ironie et beaucoup d'humour. Le thème général, c'est la France qui était l'habituée des critiques, notamment du côté britannique. Il y a un French bashing qu'on apprécie beaucoup de l'autre côté, de la mer. Et donc, ils disent, pour la première fois depuis très longtemps, il y a un début de commencement de mesures de réforme en France. Et donc, ils disent, saluons avec enthousiasme ce début de commencement. Parce que leur appréciation, c'est que malgré tout, les réformes lancées par M. Macron sont des réformes très timides. Simplement, ils veulent encourager cette bonne direction prise et ils veulent saluer par avance l'effet des réformes qui vont être mises en œuvre.
Frédéric Mettezou.
Oui, on évoque depuis le début de cette interview, Élie Cohen, les mutations, la nécessité de changer de statut. Un coup, on est CDI, un coup, on est entrepreneur, un coup on est CDD, un coup on est chômeur en formation. Est-ce que finalement ça valide pas le besoin, alors est-ce qu'on le fait à la mode Benoît Hamon ou autre, mais le besoin d'un revenu universel garanti tout au long de la vie?
Ah, ça c'est une immense question, c'est un sujet très très débattu. Et là-dessus il y a des positions, je dirais, tout à fait respectables qu'il faut avoir présentes à l'esprit. La première objection qu'on peut faire, c'est qu'on souhaite a priori, une insertion plutôt par le travail que par le revenu garanti. Et donc, est-ce que à partir du moment où on raisonne en termes de revenu universel, on lâche pas la proie pour l'ombre, c'est-à-dire est-ce qu'on n'abandonne pas la volonté déterminée de faire en sorte que chacun puisse avoir un travail, pas simplement pour avoir un revenu, mais pour avoir un statut, une condition. Et ça me semble être un point sur lequel il ne faut pas renoncer.
Disait par exemple Arnaud Montebourg ou Jean-Luc Mélenchon.
Oui. Donc effectivement, moi c'est un point auquel je tiens beaucoup et moi je serais plutôt d'avis qu'on mette vraiment en œuvre tous les moyens possibles et imaginables, ne serait-ce que pour la dignité des gens, pour qu'ils puissent être insérés sur le marché du travail. Maintenant, il y a un deuxième problème qui est comment vous financez ce revenu universel. Et là, il y a deux positions. Il y a ceux qui disent ça vient en plus de tout ce qui est fait en matière de protection sociale. Et là, à mon avis, c'est simplement pas sérieux. J'ai pas besoin de développer ce qu'est la situation de la France en matière budgétaire et fiscale. Et puis, il y a ceux qui disent, ben non, ça va venir en substitution et en forfaitisation de tout un système de prestations sociales qui existe aujourd'hui. Et là, je n'y suis pas beaucoup favorable parce que je pense que c'est pas une bonne chose que les gens ne soient pas obligés à s'assurer dans un certain nombre de domaines. Si vous laissez les gens déterminer leur propre niveau d'assurance, il risque d'y avoir des trous dans la couverture.
Frédéric Capot, bonjour Frédéric, merci d'écouter France Inter. Élie Cohen vous écoute.
Oui, bonjour à tous. Monsieur Cohen, bonjour.
Bonjour.
La BCE, depuis 2008, a déversé des milliards de dollars vers les banques ou en rachat de titres sans aucun effet sur l'économie. Alors, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la proposition du scientifique Jean Jouzel et de Pierre Larouturoux de Nouvelle Donne de faire financer la transition énergétique, ce qui pourrait être source d'une croissance vertueuse et de nombreux emplois, par la BCE via des prêts à taux zéro pour les États sur 20, 25 ou 30 ans.
Alors deux réponses. La première d'abord, c'est que la politique monétariste très accommodante de la Banque Centrale Européenne a eu des effets. D'abord, ça a permis de nous sortir de la crise la plus noire que nous avons connue en 2009 et des risques que nous avons connus en 2011. Et l'une des manifestations, si j'ose dire, de l'efficacité de cette politique, c'est le dernier rapport qui a été fait par la Banque de France qui montre que les entreprises françaises continuent à s'endetter et à s'endetter fortement. Et il y a une spécificité française de l'endettement des entreprises, alors que chez nos voisins, le taux d'autofinancement sont supérieurs à 100%. Donc juste pour corriger votre point sur le fait que ça n'a pas d'effet, ça a un gros effet, ne serait-ce que sur la structure des bilans des entreprises. Et sur le deuxième point, eh ben, vous avez tout à fait raison, la Banque Européenne d'Investissement finance et va financer, notamment dans le cadre du plan Juncker, toute une série d'investissements pour la conversion énergétique, pour les mobilités durables, pour, je dirais, l'écologisation de l'économie. Et il y a des crédits très importants qui sont prévus. Donc, moi, je préfère qu'on passe par une procédure d'investissement type BEI que par de la pure décision discrétionnaire de la Banque centrale. Je crois que la Banque centrale fait son travail quand elle vient en aide aux entreprises et au système bancaire. Je crois que la BEI fait son travail quand elle aide à l'investissement pour le verdissement de l'économie.
Dernier appel, Marina à Lyon. Bonjour, Marina.
Oui, bonjour.
Allez-y, vous êtes sur l'antenne.
Alors, écoutez, moi, je suis une toute petite entreprise. Pour l'instant, je travaille seule et je cherche une assistante. Et je réagis par rapport à ces questions des contrôles des chômeurs, etc. Je pense qu'il faudrait vraiment se poser la question sur le fonctionnement du système. Moi, j'ai contacté Pôle emploi, je me suis inscrite en tant que recruteur et j'ai demandé un rendez-vous. On m'a expliqué, oh là là, c'est très compliqué ce que vous demandez, la personne est malade, on va vous contacter, ça fait plus de 15 jours, je dirais même peut-être 3 semaines, personne ne m'a contacté, rien. J'ai commencé à trier des CV, j'ai sélectionné 130, je me suis dit super, je commence à travailler. Le premier contact, bah écoutez, je suis en poste depuis 2 ans, je leur ai déjà dit 3 fois d'enlever mon CV, et ça s'est passé 3 fois d'affilée. Donc du coup, on se dit, mais... Voilà, moi j'ai pas beaucoup de temps, si je cherche quelqu'un c'est que je suis archi débordée, oui. J'ai pas beaucoup de moyens, et m'entendre dire que c'est très compliqué d'avoir un rendez-vous en tant que recruteur, bah autant mettre une annonce sur le bon coin. Voilà.
Bah écoutez, vous illustrez parfaitement ce que je disais tout à l'heure sur les dysfonctionnements de Pôle emploi, sur les insuffisances de Pôle emploi, et sur en plus la concurrence entre organismes qui veulent traiter cette question de l'emploi, entre les bureaux locaux, les échelons décentralisés, l'activité de Pôle emploi, le fait que Pôle emploi sous-traite elle-même une partie de son activité à des sociétés privées de placement. Bah, tout ceci montre que le système est loin d'être optimisé, qu'il est dysfonctionnel. Et d'ailleurs, on le constate avec les offres d'emploi non satisfaites dans des secteurs où on penserait qu'il est assez facile de trouver des personnes qualifiées et compétentes. Tout ceci veut juste dire qu'il faut revoir le fonctionnement des services publics de l'emploi.
Élie Cohen, économiste, directeur de recherche au CNRS, était l'invité de la rédaction de France Inter ce matin. Merci beaucoup.
Merci.